Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر اللَّهِ قَرِيبٌ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche, vraiment ?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonjour amis auditeurs, ravi de vous retrouver en ce mercredi 30 mars 2022. Nous allons vous présenter tout de suite le journal suivi d'un commentaire politique. Les actions inhumaines des États-Unis constituent une grave menace pour la santé des Iraniens. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. À la une de ce journal, Amir Abdollahian, chef de la diplomatie iranienne, a déclaré que Téhéran et Pékin soulignaient leur soutien à l'indépendance, à l'unité nationale et aux droits du peuple afghan. La coalition d'agression dirigée par l'Arabie saoudite a déclaré qu'elle mettrait fin aux activités militaires contre le Yémen à partir du mercredi. Autre fusillade en Israël, au moins 5 Israéliens, dont un officier, ont été tués dans une attaque à l'arme à feu dans la banlieue de la capitale Tel Aviv. C'était les principaux titres que nous allons développer tout de suite dans ce journal. Bienvenue à tous. Le ministre iranien des Affaires étrangères a tweeté que l'Iran et la Chine soulignaient leur soutien à l'indépendance, à l'unité nationale et aux droits du peuple afghan. Hossein Amir Abdollahian a écrit dans un tweet mercredi matin après son arrivée en Chine « Je suis heureux d'être en Chine pour assister à une réunion du ministre des Affaires étrangères des pays de la région à propos de l'Afghanistan. L'Afghanistan mérite plus d'attention de la part de la communauté internationale », a ajouté le très haut diplomate iranien. L'Iran et la Chine soulignent leur soutien à l'indépendance, à l'unité nationale et aux droits du peuple à déterminer son propre destin et espèrent voir un Afghanistan stable, développé et interactif avec ses voisins, a annoncé Amir Abdollahian. Le ministre des Affaires étrangères a dirigé une délégation politique hier mardi pour assister à la troisième réunion des ministres des Affaires étrangères des pays voisins de l'Afghanistan et est parti pour la ville de Tunxi dans la province d'Anhui à l'est de la Chine. La troisième réunion des voisins de l'Afghanistan sera organisée au niveau des ministres des Affaires étrangères par la Chine à Pékin. La deuxième réunion des ministres des Affaires étrangères des pays voisins de l'Afghanistan s'est tenue le 27 octobre 2021 à Téhéran. La première réunion s'est tenue en vidéoconférence le 8 septembre 2021, organisée par le Pakistan. La réunion a réuni les ministres des Affaires étrangères de l'Iran, de la Chine, de la Russie, du Tadjikistan, du Turkménistan et de l'Ouzbékistan. Le ministre des Affaires étrangères, nommé par les talibans, Amir Khan Muttaqi, représentera l'Afghanistan lors de cette réunion régionale. Le Qatar et l'Indonésie seront présents en tant qu'invités. L'ambassadrice adjointe de l'Iran à l'ONU a déclaré que les sanctions unilatérales inhumaines de Washington contre la République islamique continuent de menacer gravement la santé du peuple iranien. Dans un discours à l'Assemblée générale de l'ONU, Zahra Ershadi a déclaré que les mesures coercitives des États-Unis et de leurs alliés rendent plus difficile la lutte contre la pandémie pour les pays touchés par le coronavirus. Elle a déclaré que la Maison-Blanche affirme que les sanctions n'entravent pas les importations iraniennes de denrées alimentaires et de médicaments, mais que les restrictions bancaires rendent les achats de l'Iran impossibles. Ershadi a également déclaré que malgré les sanctions, l'Iran a fait de grands progrès dans le domaine médical et est désormais l'un des rares pays à produire le vaccin COVID-19. L'actualité, c'est également le Yémen où la coalition d'agression dirigée par l'Arabie saoudite a déclaré qu'elle mettrait fin aux activités militaires contre le pays à partir d'aujourd'hui, mercredi. La coalition ne mènera aucune opération pendant le mois sacré du Ramadan pour aider les négociations entre les parties yéménites à réussir. L'annonce intervient au milieu d'efforts de l'ONU pour obtenir une trêve visant à autoriser les navires citernes et certains vols au Yémen pendant le Ramadan. Ceci après que Sanaa a déclaré un cessez-le-feu unilatéral, disant qu'il est prêt pour une trêve permanente. Syriade retire ses forces et met fin à son siège. Un haut responsable d'Ansarallah a réitéré la revendication que l'Arabie saoudite lève le siège de longue date. Mohamed al-Boukati a déclaré que les forces armées yéménites poursuivraient leur opération militaire pour briser le siège si Riyad ne prenait pas l'initiative. Le 8e année de la guerre serait pleine de surprises, a déclaré le chef du Conseil politique suprême du Yémen. La 8e année de la guerre serait pleine de surprises si l'ennemi n'écoutait pas la voix de la raison et de la logique, selon le chef du Conseil politique suprême du Yémen, Mahdi al-Mashat. Dans une interview exclusive diffusée par Yaman TV, Mahdi al-Mashat a déclaré que la 8e année soit pleine de surprises si l'ennemi n'écoutait pas la voix de la raison et de la logique. Toutes nos options sont ouvertes et des surprises sont possibles à l'avenir, mais nous espérons qu'ils entendront la voix de la raison. Nos demandes sont justes et personne dans ce monde ne peut nous souhaiter nos droits, a-t-il ajouté. Il a souligné qu'il n'y a aucun lien entre la volonté de Sanaa de dialoguer dans un pays neutre et ce qui est organisé à Riyad, soulignant que le rassemblement des rangs de la coalition d'agression n'est pas une consultation de paix. Nous voulons des efforts sérieux pour parvenir à des solutions globales et ce qui est organisé à Riyad n'est pas dans le contexte de la paix et s'il y a un processus de paix sérieux, nous sommes prêts à y faire face, a-t-il dit. Il a souligné qu'il y a eu des contacts continus de temps à autre depuis le début de l'agression, mais malheureusement, ils n'ont pas abouti à des résultats. Autre fusillade en Israël, les médecins disent qu'au moins 5 Israéliens, dont un officier, ont été tués dans une attaque à l'arme à feu dans la banlieue de la capitale Tel Aviv. Les médias israéliens disent que les responsables soupçonnent l'agresseur d'être un Palestinien de Cisjordanie occupée. L'agresseur aurait été abattu. Il s'agit de la 3e attaque de ce type en Israël en quelques jours. Dimanche, 2 soldats israéliens ont été tués et 3 autres blessés après que 2 Palestiniens ont ouvert le feu dans la ville de Kedira avant d'être abattus. Les mouvements de résistance palestiniens ont salué l'attaque de dimanche comme une réponse naturelle et légitime à l'occupation et aux crimes d'Israël. L'attaque s'est produite alors qu'Israël accueillait les ministres des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, du Maroc et de Bahreïn, les 3 pays arabes qui ont normalisé leurs relations avec le régime en 2020. La semaine dernière, un Palestinien a tué 4 Israéliens dans des attaques au couteau et à la voiture bélier avant d'être abattu par un passant. Sachez également que les mouvements de la résistance continuent leurs éloges pour un jeune Palestinien qui a perdu la vie après avoir tué plusieurs Israéliens lors d'une opération près de Tel Aviv, dans le cadre de la lutte contre l'occupation. Le Hamas a déclaré que l'attaque était une opération héroïque en réponse aux crimes et actes de terreur commis par le régime israélien. Et le djihad islamique l'a décrit comme le prix que le régime israélien doit payer pour ses brutalités et ses actes terroristes. Pendant ce temps, le Front populaire de libération de la Palestine a désigné l'opération comme la preuve d'un engagement collectif palestinien dans la résistance. Les brigades Al-Aqsa ont également réagi en qualifiant l'attaque de réponse naturelle aux crimes israéliens. Enfin, l'Ukraine, le dernier cycle de négociations entre la Russie et l'Ukraine à Istanbul, montre des signes de progrès. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que les signaux provenant des pourparlers pourraient être positifs. Mais Zelensky ne voit toujours aucune raison de croire les commentaires de certains représentants russes selon ses mots. Il dit que l'Ukraine ne peut compter que sur un résultat concret des pourparlers. Ceci après que le négociateur en chef de la Russie a déclaré que les discussions sur la préparation d'un accord sur la neutralité et le statut non nucléaire de l'Ukraine sont maintenant à un stade pratique. Alexander Fomine a déclaré que la Russie réduirait désormais radicalement les activités militaires près de Kiev et de la ville septentrionale de Tchernihiv. Ailleurs, le ministre turc des Affaires étrangères a déclaré que ses homologues russes et ukrainiens devraient maintenant se rencontrer après que les deux parties sont parvenues à un accord lors des pourparlers de mardi. Pendant ce temps, Washington dit que l'Occident aimerait voir si la Russie désamorcera son opération. Fin de ce journal, merci de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. Les actions inhumaines des États-Unis constituent une grave menace pour la santé des Iraniens. Zahra Ershadi, ambassadrice et représentante permanente adjointe de l'Iran auprès des Nations Unies, a déclaré que les actions inhumaines, coercitives, unilatérales des États-Unis continuent de constituer une grave menace pour les droits du peuple iranien à la santé et à l'accès aux médicaments, aux équipements médicaux. Selon l'IRNA, l'ambassadrice et la représentante adjointe de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies, s'exprimant en mardi soir lors de la 75e session de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le thème de la santé mondiale et de l'agenda de la politique étrangère, a ajouté « Le renforcement de la santé mondiale ne sera pas réalisé sans améliorer l'infrastructure sanitaire et garantir que le transfert de technologies et de connaissances dans des domaines médicaux soit accessible sans aucune considération politique. Cela signifie que l'accès à des services de santé abordables et de qualité et à des médicaments essentiels, à des vaccins de qualité sûrs et efficaces, à des technologies diagnostiques, devrait être disponible pour tous les pays sans aucune discrimination ni considération politique, a ajouté la haute diplomate de la République islamique d'Iran. Le besoin d'un accès universel à des soins de santé abordables et de qualité est une priorité essentielle pour le développement international et la résolution des problèmes de santé ne doivent pas être limités aux intérêts de tendances politiques spécifiques, a-t-elle déclaré. L'accès à des soins de santé abordables est un élément essentiel pour répondre et améliorer les épidémies de COVID-19 et d'autres urgences de santé publique. Dans cette situation sanitaire sans précédent, la coopération, la solidarité et l'unité sont plus que jamais centrales. Profitons de cette occasion pour promouvoir le multilatéralisme et combattre l'unilatéralisme afin de nous concentrer sur la résolution de cette crise humanitaire au profit de tous, a souligné Ershadi. Alors que le monde s'efforce de freiner l'épidémie de coronavirus, nous soutenons également le principe selon lequel les progrès en matière de santé mondiale dépendent principalement des partenaires internationaux et de la coopération multilatérale, en particulier pendant les crises mondiales. Cependant, nous voyons les États-Unis et ses alliés qui suivent aveuglément leur politique, appliquent de mesures coercitives unilatérales inhumaines, y compris des sanctions économiques illégales et oppressives contre un certain nombre de pays, y compris ceux qui souffrent de graves conséquences de la pandémie. les actions coercitives unilatérales des États-Unis continuent de représenter une grave menace pour le droit du peuple iranien dans le domaine de la santé et leur accès aux médicaments et aux équipements médicaux, a noté le numéro 2 de la mission iranienne aux Nations Unies. Les Américains prétendent que les mesures coercitives unilatérales n'incluent pas la nourriture et les médicaments. Mais en fait, en raison des sanctions et de l'exclusion des pays du système bancaire international pour les transferts financiers liés à ces achats, il est impossible d'accéder à ces articles via les mécanismes des ressources commerciales et financières existantes. Ils seront supprimés, le champ d'application de ces mesures sera également étendu à ces biens, a déploré l'ambassadrice.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition du débat. La coalition d'agression militaire sous commandement saoudien est plus que jamais dans l'impasse. S'étend jour pour jour après le début de son offensive contre le Yémen. En effet, 7 ans après les premières frappes contre le Yémen, le 26 mars 2015, l'intervention militaire de Riyad et de ses alliés régionaux et internationaux s'est soldée par un échec total, ayant causé la mort de centaines de milliers de personnes et provoqué l'une des pires crises humanitaires au monde. Sur le terrain, la résistance yéménite a multiplié ses attaques aux drones et aux missiles contre l'Arabie saoudite, mais aussi les Émirats arabes unis, et changé, notamment au cours des derniers mois, le rapport des forces. À cette occasion, la diplomatie iranienne a appelé à la fin de l'agression saoudienne et du blocus cruel imposé à la population yéménite, soulignant en effet la nécessité d'un dialogue pour mettre fin à cette crise, à cette guerre, en dehors de toute ingérence étrangère. Aujourd'hui, et à l'occasion du 7e anniversaire de la guerre saoudienne contre le Yémen, nous allons analyser les principales raisons de l'échec de la coalition saoudo-occidentale au Yémen, les victoires successives de la résistance yéménite, ses percées technologiques et militaires et la perspective, en effet, du conflit au Yémen. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
De quelle nature pourrait bien être cette mer des surprises que le ministre yéménite de la Défense, Nasser al-Attefi, vient de promettre à la coalition saoudo-émirati ? Surprise qui a le croire, et on peut effectivement le croire, car en 8 ans de guerre, Ansar Allah n'a jamais bluffé, changera définitivement le rapport des forces et dont la perspective semble avoir terrorisé non seulement l'Arabie saoudite et les Émirats, mais encore cette partie qui agit depuis 2015 dans leur ombre et en toute discrétion, à savoir Israël. Vu l'ampleur inattendue qu'ont pris depuis le 14 mars les frappes balistiques d'Ansar Allah ou les combinaisons missiles balistiques, missiles de croisière, drones ont étendu étape par étape leur champ d'action pour cibler d'abord le sud, puis le sud et le centre. Et enfin, et lors d'une seule opération, le sud, le centre et l'ouest avec un filigrane, Riyad, Yanbu, Jizan Daran et Pakaramko et les sites pétrogazier que la résistance yéménite frappe régulièrement au point d'endosser la production et influer le marché mondial du pétrole, mais encore, et pour la première fois, des installations pétrochimiques et surtout les usines de dessalement signent que le conflit dépasse le seuil de l'irréversible. Cette surprise ne pourrait qu'être de nature balistique. Selon une toute dernière information, les Saoudiens sont dans tous leurs états, tout comme les Émirats, depuis qu'Ansar Allah a établi une énième équation de force, ciblage des infrastructures saoudiennes, eau, électricité et pétrole, contre levée de l'embargo. Et la panique est si profonde que l'axe Riyad-Abu Dhabi en a été à frapper à la porte du Hezbollah pour une médiation. Et si ce n'était que des infrastructures ? Ansar Allah a clairement fait comprendre qu'il fermera le détroit de Bab el-Mandeb et qu'il possède tous les moyens pour le faire. Du coup, l'axe US-Grande-Bretagne-Riyad-Abu Dhabi voit partout en mer Rouge des bateaux piégés, des mines sous-marines et même des torpilles et tire évidemment sur tout ce qui bouge au nom de la prévention. En effet, cette crainte n'est pas uniquement celle de Riyad ou d'Abu Dhabi, mais aussi et surtout celle d'Israël. Car qu'on se le dise, l'une des principales raisons de la guerre menée par les États-Unis et ses sbires aura été le contrôle des voies navigables, en particulier de Bab el-Mandeb, en raison de son importance géopolitique qui rend celui qui le contrôle le maître d'au moins 10% du mouvement commercial international. Bref, la fin subie par des millions de Yéménites aura un prix infiniment lourd à payer, largement bien plus lourd que le seul dysfonctionnement d'Aramco.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Je vais tout de suite vous présenter nos invités pour cette émission. Nous sommes en ligne depuis Damas avec Maître Arnaud Develay, juriste international et analyste politique, et depuis Paris avec Madame Aïssa Hamidani, analyste franco-syrienne des questions internationales. Madame Hamidani, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous et merci de votre invitation. Merci. Bonjour. À toute l'équipe Presse TV, à Maître Develay aussi.
Merci, Madame Hamidani. Madame Hamidani, alors, 7 ans, jour pour jour, après le début de l'offensive saoudienne contre le Yémen, le constat est unanimement partagé, à savoir le fiasco total du camp saoudo-occidental, non seulement sur le plan militaire, mais aussi sur le plan politique. Alors, si on remonte en arrière, sur le plan politique et militaire, bien entendu, alors les motivations politiques et économiques constituaient, entre autres, des principales raisons de l'intervention militaire de la coalition d'agression saoudienne. Mais aujourd'hui, comme vous le savez très bien, alors le régime de Riyad a mobilisé tous ses moyens et a instrumentalisé en effet toutes les questions, entre autres la crise ukrainienne, on va y revenir, justement pour pouvoir sortir du bourbier yéménite. Alors, quel premier regard portez-vous sur les principales raisons de l'échec, de la défaite, en effet, du camp saoudo-occidental au Yémen?
D'abord, elles sont assez nombreuses, je peux dire. D'abord, c'est une agression en bonne et due forme. L'Arabie saoudite et les Émirats, sous le contrôle des Américains ou à la demande des Américains, mènent depuis 7 ans contre le peuple yéménite, qui est un peuple qui n'a agressé personne, et ils l'ont agressé non seulement en bombardant, mais de manière absolument folle, et c'était une folie tueuse, en détruisant toute l'infrastructure, toutes les possibilités de vie, etc., en bombardant même la population civile de manière à faire le maximum de morts et de blessés, en faisant un blocus qui empêche aussi le peuple de vivre dans une période de corona, et donc empêchant toute arrivée de secours et humanitaire et de moyens de vie du style les produits pétroliers, les produits de première nécessité, les produits alimentaires, etc., en ayant détruit tous les moyens de production aussi yéménites. Donc c'est une guerre meurtrière criminelle qui est menée contre le peuple, yéménite depuis 7 ans. Un autre point, donc face à cela, bien sûr, c'est à la commande des États-Unis et d'Israël. Et l'objectif principal de cette guerre, c'est que permettre toujours ou que les Américains, par le biais des Saoudiens et les alliés, donc les Émiratis, puissent avoir la main mise sur tous les passages de l'eau, en fait tous les passages maritimes du commerce international. Il faut quand même savoir qu'il y a bon nombre, justement un pourcentage important du commerce international qui transite par Bab el-Mandeb, la mer Rouge, et puis qui passe dans le canal après. Donc ça, cette agression, elle est caractérisée, elle est, je dirais, pour toute personne qui a un peu de conscience et qui a un peu d'humanité, elle ne peut que la réfuter, la rejeter, etc. Face à cela, les deux poids deux mesures américains de la presse internationale, ils ont complètement gardé sous silence et occulté toute expression du peuple yéménite et toute expression concernant ces crimes qui sont commis tous les jours contre le peuple yéménite. Un autre point qui est important à voir, c'est que cette agression a renforcé l'axe de la résistance, a renforcé les liens tissés entre les révolutionnaires yéménites et les révolutionnaires de la région, la République arabe, la République iranienne, islamique de l'Iran, mais aussi ils ont augmenté leurs liens avec l'ensemble des pays de l'axe de la résistance, avec les Palestiniens, avec le Hezbollah et la Syrie. Donc en fait, les révolutionnaires yéménites ont pu tisser effectivement ces liens importants. Ils sont soutenus et eux-mêmes, ils ont aussi pu tisser leurs liens avec l'ensemble des composantes du peuple yéménite, ce qui fait que l'échec, il est venu non seulement sur le plan militaire, mais aussi sur le plan social. Ils ont réussi à reconstituer, à constituer une unité sociale du pays, une unité nationale du peuple yéménite, alors que les Saoudiens et les Émiratis voulaient diviser à coup de billets, je dirais, et à coup d'avantages comme ça distribués. Mais en fait, c'est vrai que l'ensemble, le Ansar al-Mar ont réussi par une grande diplomatie et une grande capacité à la fois diplomatique, mais aussi l'amour de leur pays, ils ont réussi à convaincre tout le monde à se rallier à eux. D'où aussi la libération d'une grande partie du territoire yéménite et la reprise de contrôle, en fait, de l'ensemble de la société. Ça, c'est un point qui est très, très important.
Merci, Madame Edani.
Et puis, l'aide du front de la résistance.
Merci infiniment pour ces précisions. Restez avec nous. On va tout de suite rejoindre à Damas Maître Arnaud Develé, juriste international et analyste politique. Maître Develé, bonjour. Merci d'être en ligne avec nous.
Bonjour, merci à vous et bonjour à Madame Edani.
Maître Develé, alors 7 ans après le début de l'offensive saoudienne contre le Yémen, où en est-on de cette guerre sur le plan militaire, sur le plan politique, sans oublier bien entendu d'une part les conséquences désastreuses de cette offensive sur la situation humanitaire, sans oublier l'implication des pays occidentaux avec leur géométrie variable, en effet, leur politique de deux poids, deux mesures, notamment sur le droit international, et avec cette intelligence, non seulement diplomatique, mais surtout et stratégique de la résistance yéménite.
Alors, vous l'avez souligné, en fait, la guerre au Yémen est un marqueur plus que jamais de cette évolution rapide de l'ordre géopolitique actuel. Et quand je dis l'ordre géopolitique, ce n'est pas seulement les relations internationales entre États, mais aussi l'ordre institutionnel lui-même, en la mesure où, vous le soulignez à l'instant, alors même que l'hystérie médiatique bat son plein concernant l'opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine, la guerre du Yémen est sur le point d'entamer sa 8e année et dans un silence médiatique et je dirais institutionnel assourdissant, avec près de maintenant 400 000 victimes civiles, 60% étant plus ou moins atteints par les dégâts causés par les bombardements incessants, destruction des infrastructures, des hôpitaux, accès à la nourriture compromis, avec donc une famine, une épidémie de choléra qui est complètement hors de contrôle. Et malgré tout, Madame Midani a bien fait de souligner, la résistance yéménite et l'armée yéménite ont réussi à créer une cohésion qui permet, bon l'an mal an, de subvenir aux besoins de la population. Et c'est ce qui fait justement qu'aujourd'hui, ils sont la seule autorité légitime politique au Yémen, et qu'en cela, le cadre adopté par les Nations Unies fin 2015 au travers de cette résolution 2216 est complètement obsolète, non seulement grâce à cette action concertée de la coalition de la résistance yéménite, l'armée yéménite, comme je le disais à l'instant, mais aussi, et c'est surtout la grande différence après 7 ans de conflit, c'est l'inversion totale de l'équation militaire, avec une résistance qui maintenant est capable de calibrer à la dizaine de mètres près ses attaques, déjouer tous les systèmes de détection radar les plus sophistiqués et compromettre sérieusement la capacité pour les principaux membres de la coalition, donc à savoir l'Arabie Saoudite et les Émirats, à pouvoir financer, générer et eux-mêmes continuer avoir une économie qui soit attrayante et propice aux investissements. J'ajouterais à cela que dans l'ordre fluctuant actuel de la géopolitique, où on entend des rumeurs comme quoi Riyad serait par exemple tenté de réactiver des pourparlers avec la Chine portant sur la vente de leur crude en yuan, en cela, Ansarullah ne se laisse pas compter. Ils ont utilisé la plateforme médiatique générée par le sommet de la conférence islamique à Islamabad pour se rappeler au bon souvenir, par exemple, des Chinois qui seraient peut-être tentés de fournir eux-mêmes remplacer, si je puis dire, peut-être certains États occidentaux dans la fourniture de systèmes de défense balistique qui fassent le travail, entre guillemets, ou alors par rapport, comme je le disais à l'instant, de collaborer avec Riyad sur l'échange énergétique, en disant faites attention, calculez bien vos intérêts sur le long terme, parce que nous sommes là, nous n'allons pas disparaître, nous sommes de plus en plus forts, nous avons la main sur les opérations militaires. C'est une situation, il faut bien le comprendre. On n'est pas du tout dans une situation plus ou moins similaire à ce qu'on pourrait voir en Ukraine, où on peut penser qu'en quelques semaines, les objectifs stratégiques seront accomplis. C'est vraiment une guerre d'attrition où la population civile est vraiment ciblée paramètre principal par la coalition pour essayer de la retourner contre la résistance yéménite. Cela a échoué. Et en cela, maintenant, c'est une situation où même l'ONU n'intervient pas. L'ONU devrait faire des déclarations, en tout cas militer de manière beaucoup plus active pour essayer de mobiliser, en tout cas, les membres les plus influents du Conseil de sécurité afin que ceux-ci entreprennent des démarches qui viseraient à rédiger un texte qui prenne en compte la réalité telle qu'elle est aujourd'hui et qui, surtout, plus que n'importe quoi, mettre en avant, appel à la, comment dirais-je, à la rupture de cette, de ce blocus qui ne peut plus être toléré. Merci. Indépendamment de questions politiques et militaires.
Merci pour ces éclairages, Maître de Velay. Madame Edani, alors Maître de Velay a parlé à juste titre de cette hystérie, en effet, médiatique, mais aussi diplomatique, occidentale. Alors, si vous faites un parallèle entre ce qui se passe au Yémen, ce qui s'est passé au cours des dernières années, de cette dernières années au Yémen, et la situation actuelle, en Ukraine, justement, là, alors on a l'impression que les pays occidentaux, les prétendus défenseurs des droits de l'homme, en effet, agissent non pas sur la base des considérations humaines et morales, mais sur la base d'alliances et des considérations politiques.
Absolument. Et donc, pas seulement d'ailleurs, nous avons vécu ceci en Syrie aussi, toute cette... ce déchaînement médiatique contre la Syrie, contre toute force qui s'oppose au diktat américain, ces déchaînements médiatiques aussi contre la Russie, alors que la Russie mène une opération quand même de nettoyage en Ukraine des nazis et surtout s'oppose justement à la présence militaire. Nucléaire aussi à ses portes, hein, mais aussi contre l'existence de ces laboratoires qui travaillent sur des armes biologiques qui sont aussi à ses portes. Hein. Donc, on a bien vu ce monde qui se targue justement de droits de l'homme et puis de défense des êtres humains, qui aussi et non seulement complice de ces embargos criminels qui visent à affamer les populations, à multiplier les morts et les blessés, et tout ça pour appliquer leur diktat, le diktat américain, en fait, sur ces pays et sur leur politique, et en fait, continuer à piller aussi les ressources de ces peuples et de ces pays. On voit bien qu'en Syrie, les Américains, la présence américaine pille le pétrole systématiquement, le pétrole syrien, alors que les Syriens sont complètement laissés dans le froid, dans l'obscurité, et visent aussi à... ils essayent d'affamer... et donc en brûlant les cultures, en volant le blé, etc. Donc en fait, c'est l'ordre de la réalité. Ce sont des masques dont ils se parent, des masques humanitaires, etc., dont ils se parent, mais pour cacher leur politique d'avancée de contrôle, d'avancée de violation.
Merci, Madame
Denis. Des souverainetés des peuples et de pillage systématique de leurs richesses.
Merci
infiniment. C'est la politique impérialiste par excellence, en fait, de toute façon, ça a toujours été.
Merci infiniment. Alors, on va tout de suite, alors je vais poser une toute dernière question à Maître de Velay. Maître de Velay, il nous reste 3 minutes, très rapidement, s'il vous plaît. Selon une récente information, l'Arabie Saoudite aurait annoncé en effet une baisse de sa production pétrolière en pleine sanction occidentale contre le pétrole et le gaz russe. Est-ce que ce n'est pas une manière de faire chanter les pays occidentaux, de les contraindre en quelque sorte à fermer les yeux sur les crimes que l'Arabie commet en effet au Yémen? Ou encore peut-être de l'aider l'Arabie Saoudite à sortir d'une façon honorable du bourbier yéménite.
Je pense que la seule façon pour l'Arabie Saoudite de sortir du bourbier de façon honorable va être de se présenter eux-mêmes par le biais de leur équipe de négociation. Et de se rendre à Sanaa, de se rendre à Canossa, comme dirait l'autre. On a pu constater récemment qu'au travers du JCC, Riyad avait instrumentalisé le Conseil des pays du Golfe pour essayer d'approcher la résistance yéménite avec une offre de négociation, mais qui était conditionnée à ce que la résistance yéménite vienne à Riyad, ce qui aurait été un affront, bien sûr. C'est pas du tout un reflet de la situation militaire actuelle. Ansarullah et l'armée yéménite tient les rênes à la dynamique de leur côté, et ils ne vont certainement pas vendre l'honneur de la population civile yéménite pour un prix dérisoire qui passerait en plus de ça par Riyad. Maintenant, pour répondre à la question que vous aviez posée, je pense qu'il s'agit avant tout pour Riyad d'essayer de compenser les pertes économiques justement occasionnées par le conflit, parce que la guerre, ça coûte cher, et que dans ce contexte-là, ils essayent de jouer un petit peu à un système, il serait un peu celui qui donne les ordres auprès des États-Unis ou conditionne les choses. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que les États-Unis attendent de Riyad que Riyad fasse ce que Washington dit. Et que dans ce contexte-là, ce serait peut-être un jeu dangereux pour Riyad d'imaginer qu'il puisse mettre un terme à 80 ans de pratique bilatérale en conditionnant tantôt une augmentation de la production à une implication américaine accrue justement au Yémen, ou en pensant qu'ils peuvent garder, si je puis dire, leur capacité en deçà de ce qui est possible. Afin de indirectement créer des dégâts économiques aux économies occidentales qui, en plus de ça, on s'aperçoit maintenant, se sont tirés une balle dans le pied en se privant du gaz et du pétrole russe. Et maintenant, avec le dollar qui est lui-même menacé dans son statut de réserve mondiale, c'est un jeu dangereux pour Riyad. On est plutôt en présence d'une direction qui n'a pas de stratégie globale, qui réagit au coup par coup à l'évolution géopolitique actuelle, mais qui risque de se brûler les ailes en faisant le mauvais calcul.
Maître Arnaud Develay, juriste international, analyste politique depuis Damas. Madame Aïssa Armidani, analyste franco-syrien des questions internationales depuis Paris. Merci infiniment d'avoir bien voulu participer à cette édition du débat. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
Brûler les structures mondialistes pour sauver l'ordre libéral mondialiste. Biden a enfin son succès en politique étrangère. L'Europe s'isole de la Russie, de la Chine et du marché asiatique intégré émergent. Dans sa triple frappe de sanctions contre la Russie, l'Union européenne ne cherchait pas initialement à faire s'effondrer le système financier russe. Loin de là, son premier réflexe était de trouver les moyens de continuer à acheter ses besoins énergétiques, rendu d'autant plus vitaux par l'état des réserves européennes de gaz proches de zéro. Les achats d'énergie, de métaux spécieux, de terres rares, tous nécessaires à la fabrication de produits de haute technologie et de produits agricoles, devaient être exemptés. En bref, à première vue, les nerfs du système financier mondial devaient rester intacts. L'objectif principal était plutôt de bloquer le cœur de la capacité du système financier russe à lever des capitaux, complété par des sanctions spécifiques sur Alrosa, un acteur majeur du marché du diamant, et Sovcomflo, un opérateur de flotte de pétroliers. Puis, le samedi 26 février, tout a changé. C'est devenu une guerre éclair. Nous menons une guerre économique et financière totale contre la Russie. « Nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe », a déclaré le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, des mots qu'il a regrettés par la suite. Ce samedi-là, l'Union européenne, les États-Unis et certains alliés ont pris des mesures pour geler les réserves de change de la Banque centrale russe détenue à l'étranger. Et certaines banques russes, sept au final, devaient être exclues du service de messagerie financière SWIFT. L'intention a été ouvertement admise dans un briefing américain non attribuable. Il s'agissait de déclencher un raid baissier c'est-à-dire une vente massive orchestrée, du rouble le lundi suivant, qui ferait s'effondrer la valeur de la monnaie. L'objectif du gel des réserves de la banque centrale était double. Premièrement, empêcher la banque de soutenir le rouble. Ensuite, il s'agissait de créer une pénurie de liquidités dans les banques commerciales en Russie afin d'alimenter une campagne concertée au cours du week-end pour faire croire aux Russes que certaines banques nationales pourraient faire faillite, ce qui provoquerait une ruée vers les guichets automatiques et, en d'autres termes, une ruée vers les banques. Il y a plus de deux décennies, en août 1998, la Russie a fait défaut sur sa dette et a dévalué le rouble, déclenchant une crise politique qui a culminé avec le remplacement de Boris Eltsine par Vladimir Poutine. En 2014, les États-Unis ont tenté de faire chuter le rouble par des sanctions et en provoquant, avec l'aide de l'Arabie Saoudite, une chute de 41% des prix du pétrole en janvier 2015. Il est clair que ce samedi, lorsque Ursula von der Leyen a annoncé que des banques russes sélectionnées seraient exclues de SWIFT et du système international de messagerie financière et qu'elle a annoncé le gel presque sans précédent des réserves de la banque centrale russe, nous avons assisté à une répétition de 1998. L'effondrement de l'économie, comme l'a dit Bruno Le Maire. Une rouée sur les banques nationales et la perspective d'une inflation galopante. On s'attendait à ce que cette combinaison se transforme en une crise politique, bien qu'elle soit destinée cette fois à voir Poutine remplacé façon Eltsine, c'est-à-dire un changement de régime en Russie, comme l'a proposé cette semaine un important groupe de réflexion américain. En fin de compte, le rouble a chuté, mais il ne s'est pas effondré. La monnaie russe a plutôt, après une chute initiale, récupéré environ la moitié de sa chute initiale. Les Russes ont fait la queue devant leur distributeur automatique de billets lundi, mais une ruée sur les banques de détail ne s'est pas produite. Elle a été gérée par Moscou. Ce qui s'est passé ce samedi-là et qui a incité l'Union européenne à passer de sanctions modérées à une participation pleine et entière à une guerre financière à outrance contre la Russie n'est pas clair. Cela a pu résulter d'une intense pression américaine ou bien cela est venu de l'intérieur, l'Allemagne ayant saisi un alibi opportun pour se remettre sur la voie de la militarisation pour la troisième fois au cours des dernières décennies. Pour reconfigurer l'Allemagne comme une grande puissance militaire, un participant énergique à la politique mondiale. Et cela, très simplement, n'aurait pas été possible sans l'encouragement tacite des États-Unis. Biden a donc enfin obtenu son succès en politique étrangère. L'Europe s'est isolée de la Russie, de la Chine et du marché asiatique intégré émergent. Elle s'est libérée de sa dépendance à l'égard du gaz naturel russe, sans perspective d'alternative immédiate, et s'est ralliée au projet de Biden. Prochainement, l'Union européenne va-t-elle sanctionner la Chine ? Cela va-t-il durer? L'Union européenne va-t-elle sanctionner la Chine? Cela va-t-il durer? Ça semble improbable. L'industrie allemande a une longue histoire de mise en scène de ses propres intérêts mercantiles avant des ambitions géopolitiques plus larges, avant même les intérêts de l'Union européenne. Et en Allemagne, la classe économique est en fait la classe politique et a besoin d'une énergie à prix compétitif. Alors que le reste du monde montre peu ou pas d'enthousiasme à se joindre aux sanctions contre la Russie, la Chine a exclu toute sanction contre la Russie, l'Europe est en pleine hystérie. Celle-ci ne s'estompera pas rapidement. Le nouveau rideau de fer érigé à Bruxelles pourrait durer des années. Alors que les États de l'Union européenne avaient espéré épargner les cargaisons d'énergie russe, ils n'ont pas tenu compte de la frénésie soulevée contre la Russie. Le marché pétrolier s'est mis en grève, agissant comme si l'énergie était déjà dans le viseur des sanctions occidentales. Les pétroliers avaient déjà commencé à éviter les ports russes par crainte des sanctions et les tarifs des pétroliers empruntant les routes du brut russe ont été multipliés par 9 au cours des derniers jours. Mais aujourd'hui, face à la crainte croissante de se heurter à des restrictions complexes dans différentes juridictions, les raffineurs et les banques hésitent à acheter du pétrole russe, selon des traders et d'autres acteurs du marché. Les acteurs du marché craignent également que des mesures visant directement les exportations de pétrole soient imposées si les combats en Ukraine s'intensifient. Toutes les perturbations des marchés interviennent avant même que Moscou ne réponde par ses propres contre-mesures. Ils sont restés silencieux jusqu'à présent. Mais que se passera-t-il si Moscou exige que les futurs paiements pour l'énergie soient effectués en yuan? En résumé, les changements proposés par von der Leyen et l'Union européenne, conjugués à la flambée des prix du pétrole brut, pourraient faire basculer les marchés mondiaux dans la crise et déclencher une spirale inflationniste. L'inflation créée par la hausse des coûts de l'énergie et les perturbations alimentaires n'est pas aussi facilement accessible aux remèdes monétaires. Si le drame quotidien de la guerre en Ukraine commence à s'estomper et que l'inflation persiste, le coût politique du drame du samedi de von der Leyen risque d'être une récession à l'échelle européenne. Le New York Times décrit l'impact sur les entreprises et les industries locales comme rien de moins qu'effrayant, car toutes sortes de petites entreprises à travers l'Europe, avant les événements de la semaine dernière, ont été contraintes de cesser leurs activités parce que les coûts énergétiques dépassaient les bénéfices. Les grandes entreprises n'ont pas non plus été épargnées par le choc des prix. Près des deux tiers des 28 000 entreprises interrogées ce mois-ci par l'Association des chambres de commerce et d'industrie allemande considèrent les prix de l'énergie comme l'un de leurs principaux risques commerciaux. Pour les entreprises du secteur industriel, ce chiffre atteint 85 %. On se souvient de cette vieille prédiction du Moyen-Orient, selon laquelle les valeurs occidentales se retourneraient contre l'Occident lui-même pour finalement le dévorer.
Thank you.